Salut à toutes et à tous, ici Guillaume Laurin pour votre page cinéma sur les ondes de choc avec quelques-uns des nouveaux films à l'affiche cette semaine, les meilleurs films toujours à l'affiche et puis un coup de cœur francophone comme à l'accoutumée. Voici tout de suite pour commencer Terminator Dark Fate, c'est le nouveau blockbuster américain de science-fiction de Tim Miller. Bien entendu, il s'agit d'une sorte de suite des fameux films des années 80-90. Très exactement deux décennies après les événements qui étaient relatés dans Terminator 2, Jugement dernier. C'est là qu'on reprend l'histoire. Danny Ramos, joué par Natalia Reeves, mène une vie simple à Mexico avec son frère Diego Boneta et son père lorsqu'un nouveau Terminator, très avancé et très meurtrier, baptisé Rev 9, joué donc par Gabriel Luna, voyage à travers le temps pour la tuer, comme d'habitude un petit peu, on a envie de dire. La survie de Danny va dépendre de son alliance avec deux guerrières, Grace, jouée par Mackenzie Davis, une super soldat renforcée du futur, et une Sarah Connor, toujours jouée par Linda Hamilton, endurcie par la bataille. Alors que Rev 9 détruit impitoyablement tout et tous ceux qui sont, se trouvent sur son chemin, eh bien le trio est conduit vers T-800. Et T-800, peut-être que vous l'avez deviné, il s'agit tout simplement d'Arnold Schwarzenegger vieillissant qui pourrait peut-être bien être leur dernier espoir. Alors c'est déjà le sixième volet de la saga Terminator, un film assez ingénieux ici avec un bon scénario qui recycle certains des éléments classiques de la saga. On retrouvait évidemment Schwarzenegger encore une fois et puis c'est un petit peu un faux remake comme on a pu déjà en voir dans certains de ces films-là. Il est produit par James Cameron, il est assez digne de la trilogie initiale d'après les aficionados hein. Et puis même s'il n'y a pas énormément de grandes révolutions dans la franchise. Le plaisir est au rendez-vous, notamment grâce aux effets spéciaux, mais surtout encore plus grâce au casting et notamment grâce aux actrices qui ont la part belle dans cette nouvelle série. Certains critiques pensent que la franchise peine à se renouveler, mais d'autres le trouveront particulièrement plaisant. Alors, à vous de voir. Dans un genre très différent maintenant, un documentaire a retenu mon attention. Il s'appelle Western Stars et il est réalisé par Bruce Springsteen et Tom Zimney. Il met en scène le boss lui-même. Il porte au grand écran le plus récent album éponyme acclamé mondialement de Springsteen. Et ce dernier, ainsi que Tom Zimney, son collaborateur de longue date, ont réalisé ensemble un long métrage. Il s'agit d'ailleurs de la première réalisation de Springsteen. C'est un film qui ravira avant tout les fans de Springsteen, mais qui sera également à réserver aux amateurs de musique, aux mélomanes en tout genre. C'est un très beau film musical qui est également porté par de superbes paysages américains. En salle également actuellement, toujours à l'affiche, Douleur et Gloire, Pain and Glory, qu'on va retrouver ici à Toronto. C'est le nouveau film de Pedro Almodovar, de nationalité et de langue espagnole, donc Dolor y Gloria dans le titre original. Le film raconte une série de retrouvailles, certaines réelles, d'autres par le souvenir, dans la vie d'un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, les acteurs avec qui il a travaillé depuis les années 60, les années 80 jusqu'au présent, l'impossibilité de séparer la création et la vie privée et le vide, insondable vide face à l'incapacité de continuer à tourner. On retrouve au générique Antonio Banderas et Penélope Cruz, un film très typique du cinéma de Pedro Almodovar, mais un de ses meilleurs d'après les amateurs. Une sorte d'autofiction qui fait peut-être un petit peu penser parfois au 8,5 de Fellini, avec des thèmes qui lui sont chers et une beauté esthétique tout à fait remarquable. Le film était en compétition à Cannes et certains parlent de chef-d'œuvre. En tout cas, pour le comédien Antonio Banderas, il s'agit certainement d'un de ses tout meilleurs rôles. Autre film toujours à l'affiche dont on a un petit peu parlé ici sur les ondes de choc puisqu'il était présenté en compétition dans le cadre du TIFF de Toronto de cette année, c'est Jojo Rabbit de Taika Waititi, le film qui raconte donc une histoire un petit peu fictive et très originale, celle d'un jeune garçon de 10 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne qui fait partie des jeunesses hitlériennes et qui s'invente une sorte de personnage étonnant, celui fictif d'un ami fictif fictif imaginaire qui prend les traits d'Adolf Hitler. Il est adepte d'avoir convaincu d'idéologie nazie et puis il devient furieux ensuite lorsqu'il va découvrir qu'une jeune fille juive est cachée par sa mère dans leur appartement. Alors que l'Allemagne est sur le point de subir la défaite, il devra choisir entre ses croyances ignobles et un geste d'humanisme. On retrouve à l'affiche Taika Waititi et puis Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie, Roman Greven-Davis ou encore Sam Rockwell. Et les critiques sont assez mitigées sur ce Jojo Rabbit. Certains y voient un petit chef-d'œuvre d'inventivité et de drôlerie. Un film créatif, innovatif et sensible, satirique mais aussi risqué. Et d'autres pensent qu'il s'est un petit peu emmêlé les pieds dans cette histoire assez étonnante et finalement parfois que le film souffre de quelques maladresses. À vous de voir encore une fois. Toujours à l'affiche, certains d'entre vous se sont étonnés de ne pas m'entendre parler du Joker. On en avait un petit peu parlé dans le cadre du TIFF, le nouveau film de Todd Phillips qui parle bien sûr du méchant futur adversaire antagoniste de Batman. Il s'agit ici d'une interprétation assez incroyable par l'acteur Joaquin Phoenix. J'ai vu le film il y a quelques jours seulement. Je dois dire que il y avait énormément d'attentes, peut-être que j'ai été un petit peu déçu, même si il est vrai que le film se laisse bien regarder. Il y a des grands moments de bravoure, mais il y a aussi peut-être quelques longueurs. C'est en tout cas un portrait de la folie et de la plongée dans la folie qui est assez vertigineux, encore une fois, à voir en particulier pour le talent extraordinaire de Joaquin Phoenix. Et toujours à l'affiche rapidement, cette comédie d'horreur signée Ruben Fleischer, la suite de Zombieland intitulée Double Tap, ce petit film, un petit budget qui avait fait du bruit il y a quelques années, rappelez-vous, avec dans les rôles principaux Woody Harrelson, Jesse Eisenberg ou encore Emma Stone. Eh bien la suite nous revient avec Columbus, Tallahassee, Wichita et Little Rock qui forment une sorte de famille assez étrange, improvisée et sournoise qui va se déplacer au cœur d'une Amérique apocalyptique pour affronter ces fameux zombies qui ont évolué et qui commencent à sacrément poser des problèmes. Alors personnellement, je suis assez fan de ce genre de mélange entre la comédie et le film d'horreur, au film de genre. Ici, tout est très exagéré, mais c'est vraiment ce qui fait le charme du genre. Encore une fois, un film qui ne se prend pas au sérieux, qui va vous faire rire si vous le prenez au 20e degré. On termine comme d'habitude avec un coup de cœur francophone, et cette fois, c'est le film québécois de Denis Arcand, La chute de l'Empire américain, que j'ai sélectionné pour vous. Un film récent, puisqu'il est sorti en salle l'an dernier, avec Alexandre Landry, Marie-Pierre Morin et Rémi Gérard dans les rôles principaux. C'est un film policier avant tout, dont l'histoire peut sembler à première vue assez simple. Un jeune doctorant en philosophie qui, à 36 ans, est chauffeur pour une compagnie de livraison, tout simplement parce qu'il ne trouve pas véritablement d'autres jobs, et également qui s'investit beaucoup dans les œuvres caritatives. Et un jour, il est témoin d'un hold-up qui va mal tourner et il se retrouve avec des gros sacs bourrés d'argent liquide, des millions de dollars. Et le pouvoir irrésistible de l'argent va bousculer sa vie, ses valeurs altruistes, et il va le mettre sur la route d'une escort girl envoûtante, mais aussi d'un ex-taulard perspicace et d'un avocat d'affaires véreux. C'est évidemment une sorte de suite, un pendant du déclin de l'Empire américain et des invasions barbares. Un film qui clôt superbement cette trilogie. C'est une sorte de fausse suite, une comédie dans cette trilogie, cette fois une satire de l'Amérique rongée par l'argent sale, avec des acteurs extrêmement puissants et une réflexion passionnante, une sorte de fable anticapitaliste sur l'argent et notre obsession de l'argent.